Je vous remercie, monsieur le recteur, et puisque vous parlez de plaisir, laissez-moi dire que le plaisir est pour moi. C'est une occasion d'évoquer devant nos amis cette Italie où j'ai passé de nombreuses années et de rattacher en somme l'intérêt que j'ai pu y porter au thème général du colloque, de vous laisser avec moi admirer aussi la conception du programme, pas particulièrement bien fait, là, qui nous fait aller de la conception de l'Europe en général à celle de la patrie ou de la nation, à maintenant non plus une étude ou une présentation de concepts, mais beaucoup plus ponctuelle sur un cas particulier, celui donc de cette Italie. Et comme M. Guillotel le disait tout à l'heure, quiconque doit fournir un titre se laisse souvent aller à ce qui n'est qu'une facilité, certains de nos adversaires parleraient de supercherie, j'ai connu cela, c'est-à-dire à prendre général au Moyen-Âge, et je me limiterai, si vous me le permettez, à la seule période que je connaisse un peu mieux que les autres, à savoir du XIIe au XVe siècle, ou à peu près. Le but est ici d'essayer de montrer qu'il peut exister une notion de nation, la conception d'appartenir à une identité particulière, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose de commun, de le vivre en commun, d'en être satisfait et même d'en être fier, sans que pour autant, n'est-ce pas, cette identité culturelle, linguistique, spirituelle surtout, sans que pour autant elle aille de pair avec l'existence d'un État quelconque, et surtout pas d'un État centralisateur, et qu'elle aille de pair, en l'absence même d'accords, de traités, de négociations, et surtout, et là je crois que les Italiens d'aujourd'hui y sont très sensibles, en l'absence même d'une fiscalité conquérante et sourcilleuse. Mon propos est donc de développer d'abord, c'est beaucoup plus facile, dans un premier point à deux parties, les diversités de cette Italie. C'est un domaine connu, la plupart des choses sont largement connues et vous m'excuserez de vous imposer simplement sur quelques points des rappels, mais peut-être l'importance de ces diversités, leur nombre, leur gravité même quelquefois échappe, parce que nous avons toujours tendance, et la pédagogie oblige, et la polygraphie pour certains autres, n'est-ce pas, les conduisent à le faire, à tout couler dans un même moule, alors que l'histoire ne devrait, c'est mon propos, c'est mon opinion, ne s'intéresser ou mettre en tout cas en relief ces diversités. Elles sont politiques et même économiques. Elles sont politiques. L'Italie est un pays morcelé, c'est une mosaïque. Et il faut rappeler, n'est-ce pas, que alors que de l'extérieur on parle des Italiens, on considère qu'ils existent, à aucun moment il n'y a eu, d'abord, premier point, de ce premier point, et il n'y a eu de réussite d'unification. Nous connaissons tous, et c'est là que je dois aller vite pour ne pas vous importuner avec des rappels de choses que vous connaissez parfaitement, nous connaissons tous les tentatives de l'empereur, les tentatives de la papauté. Nous savons que cette querelle des investitures, qui était évidemment religieuse, dogmatique, administrative, au fond, au sein de l'Église, cachait des volontés de puissance, des volontés d'unification. Cela a échoué. De même, ont échoué des tentatives d'unification beaucoup moins connues, et qui auraient pu réussir, qui pour certaines étaient presque à la veille de réussir, sur le pas même de la réussite. Celle, et là je suis plus à l'aise, celle du XVe siècle, avec le roi d'Aragon, auquel on a donné, et c'est le seul qui ait eu l'honneur de porter le nom, n'est-ce pas, le nom de magnanime, Alphonse V, V seulement, ou en Aragon, en Catalogne, là je ne sais jamais, mais mon ami Le Flemme me dirait mieux que moi, n'est-ce pas? Voyons cette puissance considérable, n'est-ce pas? Bien entendu, lorsque l'on parle du pape, où sont ses armées? Bien sûr, il y en avait. Lorsque l'on parle de l'empereur, c'est loin, il fallait passer les Alpes. Mais Alphonse V, le magnanime, a un état puissant. Il domine, il a la Catalogne, les États du Levant, Valence et toute la région, les Baléares, la Sardaigne, le royaume de Naples et la Sicile. C'est un ensemble considérable. Or, ces Catalans qui forment en somme, enfin disons, ces gens-là, qui sont sous sa coupe, formant une sorte de, lui, dominant une sorte de thalassocratie, n'est-ce pas, n'arrivent pas à mettre la main sur l'Italie. En 1435, alors c'est un de mes grands plaisirs d'évoquer cela, en 1435, la flotte aragonaise, ça ne devait pas être rien, face à Naples, dans la baie près de l'île de Ponza, n'est-ce pas, est complètement détruite par une flotte génoise, commandée par un notaire, n'est-ce pas, tout simplement, et qui fait le roi prisonnier, et qu'on envoie du côté du Milanais. Donc, échec total de ces essais, n'est-ce pas, d'unification, même avec une puissance militaire considérable. Échec aussi, l'on pourrait dire et le rappeler, et vous savez que c'est un peu à l'ordre du jour, des alliances qui auraient voulu au moins créer de façon, autour d'un consensus, une organisation politique viable, ce que l'on appelle, le mot est dans tous nos propos en ce moment, les ligues, les fameuses ligues lombardes, la première 1167, la deuxième 1226. Elles furent très éphémères et elles sont particulières. Ce ne sont pas des associations de gouvernement, ce sont des associations, des contrats militaires suscités par le pape contre l'empereur avec des réussites militaires considérables, c'est entendu, surtout pour la première, mais qui à aucun moment n'ont essayé d'imposer, n'est-ce pas, des rencontres même de façon à unifier le pays et à lui donner une ligne politique, une forme d'administration qui soit intéressante. Donc, dans cette étude du morcellement, échec, n'est-ce pas, des tentatives d'unification. Marquons aussi, et là je voudrais aller très vite parce que il faudrait simplement accepter une nomenclature, ce n'est vraiment pas le moment ni le lieu, le fait de que ce morcellement est considérable. Nous savons, nous avons en tête les grandes entités, le royaume de Naples, la Savoie, les états du pape, voilà des principautés, on peut les prendre comme cela. Si nous montons, si nous descendons dans le temps, nous avons toutes les principautés qui sont considérables du point de vue de la civilisation et quelquefois de la puissance militaire, n'est-ce pas, de ces cours d'Italie, que je dirais l'historiographie française a négligé parce que ce n'étaient pas des communes marchandes libres, démocratiques et républicaines, n'est-ce pas? Alors il y a tous les estes de Ferrare, n'est-ce pas, les Gonzagues, etc. Tout ça est considérable. Voilà donc, vers la fin du Moyen-Âge, une mosaïque infiniment plus complexe, n'est-ce pas, plus diversifiée qu'on ne l'imagine, et je serais moi-même bien incapable de vous en donner un catalogue comme cela de mémoire, sans me reporter un atlas, et encore faudrait-il que ce fût un bon atlas. Mais la même chose pour les villes, qui ont formé des États, et qui sont très nombreuses. Bien sûr, si l'on se place à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, nous avons, Florence devient capitale d'un État de Toscane, mais il fallait en arriver là. Et pour la Toscane, il fallait mettre la main peu à peu sur Pise, sur Volterra, sur Sienne, sur Arezzo, et ça n'en finissait pas. Donc nous avons tout ceci. Et c'est l'occasion d'évoquer ici un fait de civilisation que je trouve quelquefois absolument gommé dans nos études et sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour un autre aspect de celui-ci, à savoir la guerre en Italie. Ces États non seulement existent, non seulement ils sont rivaux, mais ils sont ennemis et ils n'arrêtent pas de se faire la guerre. Je ne crois pas qu'il y ait dans même ce que nous évoquons quelquefois comme étant l'anarchie féodale, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'il y ait de pays, même en France, pour le moment les plus durs de notre histoire, aux années les plus sombres, n'est-ce pas, qu'il y ait à aucun moment des conflits entre États aussi nombreux, année après année, chaque année, les milices partant, n'est-ce pas, pour conquérir une place forte quelconque, ramenant des femmes, des hommes prisonniers, plus ou moins esclaves quelquefois, du bétail, coupant les pieds de vigne et les arbres fruitiers et mettant le feu aux récoltes. C'est une guerre terrible, acharnée, n'est-ce pas, sans rémission, et ces gens-là la vivent. Et je crois que c'est, il faut tenir ça présent à l'esprit. Je dirais aussi, toujours dans l'étude, n'est-ce pas, de ce diversité, qu'outre le morcellement que je viens d'évoquer, il y a aussi le fait que même si l'on prend les deux types de gouvernements, principautés d'une part et villes que nous appelons villes de communes d'autre part, n'est-ce pas, il n'y a pas là absolument d'uniformité. Les monarchies ne sont pas gouvernées de la même façon. Comment comparer le roi de Naples au pape, par exemple, n'est-ce pas? Et le mot de monarchie ne s'applique pas. Et les communes, en aucun cas, et alors là, très peu d'entre nous s'y lancent, et moi surtout pas, n'est-ce pas, qui a fait surtout de l'histoire économique et sociale, disséquer, étudier ce qu'on pourrait appeler les constitutions, les structures, les rouages politiques des villes de communes, cela n'est pas possible. Et je dis que malgré le talent qu'il avait manifesté en son temps, Yves Renoir, lorsqu'il avait étudié les villes italiennes, avait quand même un peu schématisé en nous présentant, n'est-ce pas, ces villes de consulat, de podesta, puis de popolo. Je lui dois beaucoup, je le répéterai tout à l'heure, nous en avions parlé, il faut à chaque fois marquer les distorsions chronologiques. Il y a toujours un siècle d'avance, si j'ose dire, entre le Nord et la Toscane. Il y a des différences fondamentales. Nous ne pouvons pas penser, nous pourrions dire, ah oui, il y a plusieurs villes, mais elles sont toutes pareilles. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Chaque ville a sa façon de se gouverner et a ses problèmes, et ceci est important. Je terminerai cette étude, un peu rapide, des diversités politiques, en marquant que à l'intérieur même de ces États, car ce sont plus ou moins, disons, de ces entités territoriales, c'est de ces territoires, que ce soit monarchique, principauté ou État communal, la faiblesse de l'État est patente. Bien entendu, nous avons une exception, parce que comme nous systématisons et que nous devons enseigner et tenir des choses en mémoire d'une façon commode, il vaut mieux systématiser quelquefois, et l'on dit Venise, c'est le triomphe de l'État. Oui, peut-être, bien, je suis absolument adversaire et je trouve toujours ridicule la fameuse formule qui dit que l'exception, n'est-ce pas, confirme la règle. C'est une exception. Il y a un État vénitien, pas tout à fait ce qu'on imagine, n'est-ce pas, pas tout à fait ça. Ce n'est pas un État démocratique, électif, n'est-ce pas, en aucun cas, n'est-ce pas, en aucun cas. C'est une terrible aristocratie. Mais partout ailleurs, je dirais que l'État s'efface. La puissance de l'État, même dans le royaume de Naples, devant les grandes familles, même à Rome, n'est-ce pas, il fallut atteindre, ou pas Martin V, il faut aller plus tard avec Siste IV, et même jusqu'à Jules II, je dirais, pour qu'enfin les Colonna, les Orsini, n'est-ce pas, arrivent à être réduits à raison. Donc cette faiblesse du maître dans les principautés est discutable. Dans les villes, ils gouvernent, les communes, ce sont des tyrannies de partis, comme on peut, mais qui ont tellement d'adversaires qu'il n'y arrive pas beaucoup. Et alors, j'en arriverai à dire que le triomphe, si l'on veut, mais enfin quand même, l'importance de l'individualisme. La fiscalité modeste, ça c'est une chose que nous avons beaucoup de mal, naturellement, à imaginer, mais elle est très très modeste. Pas une ville comme Gênes, qui, excusez-moi d'en parler si souvent ici avec tant d'affection, n'est-ce pas, qui a conquis des comptoirs extraordinaires dans l'Orient, même quelquefois lointain, marche avec un budget de pas grand-chose, n'est-ce pas. On délègue les pouvoirs, on délègue les entreprises, on veut armer une flotte, on dit, amenez vos bateaux, et chaque grande famille amène, n'est-ce pas, son ou ses navires, et a son ou ses amiraux, par exemple, tout au moins ses chefs. Et puis on met tout cela ensemble, et on part sous la même bannière, mais chacun des navires a trois ou quatre bannières différentes, n'est-ce pas, la bannière de Gênes, la bannière de la croisade, par exemple, celle du pape, si c'est cela, et puis après il y a celle de la grande famille, du clan, et puis il y a celle du chef. Enfin, c'est toute une hiérarchie qui a été très bien représentée d'ailleurs par un tableau de 1480 et qui montre ces navires quittant le port ainsi, je ne dirais pas affublés, mais ornés d'armoiries tout à fait diverses. Alors, cette faiblesse relative de l'État, elle est patente, Même dans le domaine juridique, quelquefois, j'ai fréquenté, ce sont de grands souvenirs, les actes de notaire génois, et je m'aperçois, par exemple, que les conflits, qu'ils soient marchands, bien entendu, financiers, mais même sociaux, sont beaucoup plus souvent, quelle sagesse, n'est-ce pas, réglés par la désignation d'un ou deux ou trois arbitres, n'est-ce pas, qui rendent sentence et c'est fini, que de passer devant le tribunal, n'est-ce pas? Il faut vraiment que l'on soit étranger, j'allais dire, que le problème soit très dur pour que l'on aille devant tel ou tel tribunal pour régler un conflit, surtout d'affaires, mais un conflit de propriété même, n'est-ce pas? On garde ses sous, n'est-ce pas? On désigne trois arbitres, ils mettent, ça va très vite, deux, trois semaines, ils rendent leur sentence et les parties s'y conforment. Ceci est tout à fait classique, tout à fait net, n'est-ce pas, de, je ne dis pas de cette démission, pas encore, de cette non-émergence d'un État qui n'ose pas encore s'imposer, qui peut-être n'y tient pas tellement. Alors, au profit de qui et pourquoi? Eh bien, j'y ai fait allusion d'abord de la famille, et de cette famille que nous avons aussi, nous, du mal à imaginer, qui n'est pas la famille conjugale ou nucléaire telle que nous voyons, 6, 8, 10 personnes, même si on compte les collatéraux, mais qui est, j'emploie un mot que des sociologues me reprochent sans cesse, mais ils ne m'en proposent pas tellement d'autres, la famille clanique, c'est-à-dire une famille très élargie, qui naturellement, à mon sens, a dû exister dans l'ensemble du monde occidental, mais qui a disparu devant précisément la montée d'entités politiques beaucoup plus puissantes qui ne pouvaient pas tolérer ce genre de choses, ou le roi, ou des communes puissantes, n'est-ce pas, ou des princes. Ces familles existent tout au long de la période jusqu'au XVe, naturellement plus ou moins puissantes selon ces clans, disons, selon les moments. Les clans portent des noms différents, Consorteria, n'est-ce pas, en Toscane, Albergo à Gênes. Le nombre de participants est varié, mais à Gênes, ça va à 200, 300, 500 personnes, 200 individus mâles et majeurs, par exemple, pour les Spinola, qui ont été évoqués tout à l'heure. Et vous voyez ce que ça représente, 200 mâles payant l'impôt, femmes, enfants, ça fait 1000 personnes, ou à peu près, n'est-ce pas? Et ils recrutent leurs armées, ils ont leur budget, et j'évoquais le problème juridique, le problème fiscal aussi. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité. Ces gens-là ne sont soumis à l'impôt, pas tous. Les Fieschi, par exemple, ne le sont pas. Ça, c'est une autre affaire. Les Spinola le sont. Mais comment ça se passe-t-il? Il y a des répartiteurs qui sont génois, qui sont, gouvernementaux. Si vous appartenez au monde des artisans, le répartiteur passe dans le quartier et dit « suis-la paire à temps, sollicitant ». Si vous êtes un Spinola, pas du tout. Le répartiteur dit « les Spinola vont payer en bloc tant » et c'est le conseil d'administration, les patriarches du clan qui répartissent, n'est-ce pas, la somme qu'ils doivent. Donc leur puissance est considérable. Alors, ils alimentent tout cela leur fonctionnement par des amendes qu'ils perçoivent eux-mêmes, ils font régner la justice à l'intérieur de leur affaire. On a un cas magnifique, n'est-ce pas, d'une fille Doria qui avait été enlevée par un petit cousin. La commune de Gênes a voulu, le doge a voulu intervenir, se faire reconduire dans son palais en lui disant « occupez-vous de vos affaires, les nôtres sont à nous ». Donc il y a cette quasi, non pas indépendance, mais cette quasi-puissance, autonomie du clan familial intérieur de la cité, la propriété, je l'ai étudié moi-même pour l'urbanisme, par exemple, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas construire une grande rue ni une grande place. Vous n'avez pas le droit, là aussi, ce sont des choses qui nous laissent rêveurs, n'est-ce pas, et quasi-sceptiques, vous n'avez pas le droit d'exproprier, vous ne pouvez pas, à moins de détruire la puissance du clan. Et c'est ce qui se produit. Lorsque l'on a construit une place à Florence ou à Bologne, on ne peut la construire que sur l'emplacement qu'occupaient ceux qu'ils ont appelés des rebelles, c'est-à-dire des clans appartenant à un parti vaincu. Autrement, vous n'y arriverez pas. Donc vous voyez que cette absence de l'État est quelque chose de considérable qui se manifeste dans tous les domaines. Le clan, et puis allons un peu plus vite aussi, ce que nous appelons pour un vocabulaire moderne, par exemple, le quartier, qui peut être la paroisse, qui s'appelle la contrada, quelquefois, n'est-ce pas, dans le domaine toscan, qui porte aussi le nom, quelquefois, et alors là, la confusion est très, très nette, le popolo, ce qui amène nos auteurs contemporains à faire des confusions, parce qu'ils traduisent ça par peuple, alors que c'est une entité topographico-sociale, et qu'il ne peut pas traduire par peuple. Or, tous ces quartiers tertiers, s'ils sont trois, sestiers, s'ils sont six, n'est-ce pas, ont une entité très importante. Ils existent. La répartition fiscale est confiée, là aussi, à des gens qui en sont responsables. Il y a une sorte de surveillance, de délation. On sait très bien que les Médicis ont monté en puissance parce qu'ils ont très bien réussi à tenir leur affaire. Et ils ont une vie religieuse, bien entendu, avec leur paroisse eux-mêmes, ou leur couvent dont ils nomment plus ou moins, n'est-ce pas, les bénéficiaires ou les abbés. Et ils ont même une influence militaire à tel point que je ne suis absolument pas spécialiste du lexique, mais quand même certains mots portent message ou signification. Ces quartiers, que l'on appellera le popolo, par exemple, ont un autre nom et alors ça se recouvre, c'est le gonfalon. Et ça existe. N'est-ce pas? C'est donc les armes, c'est donc la bannière que l'on a, et voilà des entités. Cette existence, cette puissance, n'est-ce pas, nous la connaissons, et nous savons qu'elle a des répartitions politiques, c'est très net. Vous prenez la ville de Sienne, n'est-ce pas, qui est comme ça, puis ils ont conquis la campagne environnante. Ils ont prolongé leur limite territoriale de la topographie siennoise dans la campagne. Si bien que les villages conquis sont citoyens de tel ou tel tertier de Sienne parce que c'en est le prolongement. Et alors l'exemple le plus manifeste pour montrer cette existence, n'est-ce pas, du quartier, du sestier, c'est bien la colonisation vénitienne en Crète. Venise a colonisé, conquis à la force des armes, c'était très dur, la Crète. Alors la commune s'est réservée quelque chose, le clergé aussi, les abbayes, on les a installés, et puis tout le reste, on a amené des colons. Ben oui, mais on ne les a pas amenés n'importe comment, on divise la Crète en six parties, et chacune des parties est peuplée par un des sestiers de Venise, n'est-ce pas, obligatoirement, de telle façon à ce qu'il y ait un prolongement colonisateur, n'est-ce pas, de ces gens-là. Alors, la conséquence de ceci, et voilà où j'arriverai à ma conclusion sur le morcellement politique, c'est que cette existence des clans, des quartiers, disons d'une façon générale, amène évidemment la guerre civile, forcément, parce qu'ils veulent triompher. Donc, ou bien au départ, ce sont des querelles de voisinage qui ne vont pas très loin, une guerre civile qui s'est prolongée pendant des siècles, n'est-ce pas, et dont l'on peut considérer que la compétition sportive du palio de la ville de Sienne est exactement le prolongement. Mieux vaut faire courir des chevaux, n'est-ce pas, et se montrer en triomphateur que de se combattre les armes à la main. Mais ces gens-là se sont rassemblés en une autre entité, n'est-ce pas, qui va finir par prendre le pas sur l'État, qui est le parti. Et guelfes, gibelins, etc., blancs ou noirs, je ne vais pas plus loin, je vois l'heure tourner. Et je dirais que là aussi, nous avons, parce que nous sommes tellement admirateurs de ce que nous avons cru, enfin, nous étions, je ne crois pas l'avoir été, mais enfin, disons cela de façon générale, tellement admirateurs de la République italienne qu'il ne fallait surtout pas entacher d'ombre, n'est-ce pas, son histoire. Outre les guerres entre cités, la guerre continuelle à l'intérieur jusque, disons, plus ou moins 1280, en gros. Jusque-là, ils n'arrêtent pas de se battre. Ce sont des querelles acharnées, massacres, incendies, exil, bannissement de la façon la plus dure et la plus insupportable. Et contrairement à ce que, lorsque notre historiographie concédait d'en parler, pouvait dire, contrairement à cette vision que ces conflits ont cessé par un consensus, qui aurait été le gouvernement collégial, à mon sens, ils n'ont cessé que par le triomphe de l'un d'eux, c'est-à-dire en mettant tout le monde, tous les autres dehors, n'est-ce pas ? Et ce fut pour Bologne et Florence le triomphe des Guelfes. Alors, la conclusion sur ceci, puisque j'ai évoqué à deux reprises la guerre, et dans quelques communications comme cela, la question m'a été posée, comment concilier cette peinture si sombre avec un tel éclat de civilisation, n'est-ce pas ? Je vous laisse réfléchir, et nous voyons au moins qu'il n'y a pas incompatibilité. Mais il faut penser, n'est-ce pas, et pourquoi, et comment. Je dirais aussi ce qui est un peu moins connu, je pense, et je vais ici pas m'attarder davantage, mais et puis parler de ce que je connais un peu mieux, que la même diversité existe dans la conduite des affaires. C'est en ce sens aussi que parler d'homme d'affaires italien est exact, bien sûr. Mais alors il faut nuancer, ce que Renoir a d'ailleurs parfaitement fait. Ce n'est pas vrai que l'homme d'affaires italien, n'est-ce pas, est un Italien. C'est un homme de Gênes, de Venise ou de Florence. Il n'y a en aucun moment uniformisation des techniques. Ces techniques qui ont fait leur supériorité, il faut bien le dire, n'est-ce pas ? On ne travaille pas, on ne sait pas travailler, et c'est un tort, j'en sais rien, à Marseille, en aucun cas, et pourtant ils ont une cinquantaine de Génois qu'ils voient faire tous les jours, ils ne savent pas dominer ni la banque ni l'assurance comme le font les Toscans ou les Génois. Mais que ce soit la comptabilité, le change, l'assurance, les techniques ne sont pas les mêmes, absolument pas. Les formes d'association marchande ne sont pas les mêmes, et ceci est important. Il y a des types de sociétés qui se sont fondées à Florence, que nous connaissons, Bardi, Médicis, etc., on ne peut pas entrer dans le détail, qui n'ont pas leur correspondant à Gênes, absolument pas. La différence est même fondamentale, elle est totale. Pour essayer de résumer, la grande société génoise est une société anonyme, par action, n'est-ce pas, et qui n'est pas exclusive, c'est-à-dire que l'on reçoit des capitaux de personnes qui les placent également ailleurs. La société florentine est familiale, exclusivement familiale, ou presque, n'est-ce pas, et exclusive. Si vous êtes dans les Médicis, vous n'allez pas traficoter, n'est-ce pas, ou placer de l'argent ailleurs. Et une différence fondamentale. Et en entrant dans le détail, on verrait des différences de ce genre-là qui sont constamment affirmées. Il y a même, quelquefois, dans la pratique ordinaire, une différence dans la langue encore, à certains moments. Le notaire génois écrit en latin jusqu'en 1480. Les notaires florentins, pisans et vénitiens, en vulgaire, n'est-ce pas ? Et le vulgaire à Gênes n'est pas utilisé, même dans les actes gouvernementaux, même dans les procès-verbaux de la réunion du Conseil des Anciens, présidée par le doge, tout est en latin. Il n'y a que la parole d'introduction, pas toujours d'ailleurs du doge qui réunit ces gens et qui parle en génois, disons en vulgaire, général pour dire, n'est-ce pas, alors je ne parle pas de génois, mais je le parle mal, signori, n'est-ce pas, qu'il commence, il n'y a plus un sou dans la caisse, et voyons ce que nous pouvons faire, c'est une fois sur deux, ça commence comme ça. Alors là, évidemment, il n'ose peut-être pas mettre ça en latin, il préfère que ce soit seulement en génois et très significatif. La pratique notariale n'est pas la même. Elle n'est pas du tout la même, n'est-ce pas ? Ceci est important pour l'historien actuel, n'est-ce pas, qui veut s'intéresser à l'économie italienne, ne doit pas considérer ses sources de la même façon. À Gênes, on ne travaille que par notaire, n'est-ce pas ? Il y a assez peu d'accords oraux. Tout passe, même l'achat d'une balle de laine, n'est-ce pas, d'assez peu de choses. À Florence, beaucoup moins, n'est-ce pas ? Beaucoup comme ça. Alors, on peut en voir la raison, mais la conséquence est importante. C'est que l'historien qui s'amuserait à faire des statistiques, là, n'est-ce pas, vous voyez dans quel genre d'aventure il se lancerait, naturellement parce qu'il dirait, à Gênes, quel trafic, à Florence, très peu. C'est faux. Il y a une tradition écrite de l'acte notarié génoise ou vénitien, moins, et qui est, non pas ignorée, mais qui est beaucoup plus faible à Florence, j'imagine, là peut-être allons-nous appeler un peu vers notre propos, j'imagine que la raison serait celle-ci, c'est que dans les villes portuaires, on trafique beaucoup plus avec des étrangers. Et que donc le crédit, la confiance, la connaissance des gens est moins assise et qu'il faut donc mettre par écrit davantage que dans une ville de l'intérieur où tout de même, même s'il vient des gens de Bologne ou de Sienne, on finit plus ou moins, n'est-ce pas, par les connaître. C'est à voir. En tout cas, voilà, donc, je dirais, n'est-ce pas, d'une façon assez générale, voilà pour la technique des affaires. Et alors, non seulement il y a une diversité dans les techniques, dans la façon de concevoir les choses, dans la tenue de la comptabilité, dans les structures marchandes, mais enfin, si l'on se dit, il y a une Italie. Oui, mais je ne vois jamais, à l'intérieur même de l'Italie, de grands contrats, disons, non pas des contrats ponctuels bien sûr, mais de sociétés, même à terme, à petite échéance, 2 ans, 3 ans, qui soient formés de gens appartenant à 2 villes différentes. Enfin, ceci est important. Bien entendu, si je suis génois, que je voyage, et puis qu'il y a un Catalan qui me donne de la laine, bon, je vais la prendre, puis on s'arrange, mais je lui rendrai des comptes tout de suite. Mais si je fais une société pour, disons, au prorata des capitaux, n'est-ce pas, pour redistribuer les bénéfices, si j'arme même un navire, n'est-ce pas, et je demande de l'argent, je ne prendrai que des Génois. Et les Florentins ne prendront que des Florentins, n'est-ce pas, et ceci est donc un particularisme qui s'affirme. S'affirme aussi, et cela est également le délice, vous imaginez bien, de l'historien de l'économie, le particularisme en matière de poids et mesure et de monnaie. Ces gens-là n'ont en aucune façon établi une uniformisation quelconque des poids, des mesures, des monnaies. Absolument pas. Et bien entendu, il faut quand même dire les choses, aller au fond et montrer à quel point cette diversité est grande. Il ne s'agit pas de dire, bon, il y a une mesure à Florence, il y en a une à Gênes, il y en a une à Milan. Bon, ça en fait 5 ou 6 après tout, mais pas du tout. Il n'y en a pas 20, 30, il y en a 100. N'est-ce pas? Il y a un système de poids des mesures à Gênes, il y en a à Savone, il y en a à la Spezia, et il y en a et partout, et qui sont très différentes, n'est-ce pas? Et il faut des manuels épais comme ça, nous les connaissons, n'est-ce pas, pour faire les transpositions, et on s'y perd quelquefois. Donc, je dirais que de la même façon que tout à l'heure, je concluais en disant, en vous appelant avec moi, à méditer sur le fait que la guerre, l'angoisse, les conflits, n'interdisait pas la floraison littéraire, créatrice, littéraire et artistique. De la même façon, la difficulté, n'est-ce pas, des poids, monnaie et mesure n'était pas, bien au contraire à mon sens, un obstacle à la réussite en affaires. Je crois que c'était au contraire la raison qui amenait les jeunes gens de l'époque à une gymnastique intellectuelle obligatoire qui leur donnait, bien entendu, ensuite des moyens de réussir beaucoup mieux. Et vous m'excuserez, mais nous sommes là entre nous, de ces anachronismes ou de ces clins d'œil à l'actualité. Je me dis aussi que l'une des réussites d'un pays que je connais beaucoup moins bien, mais un petit peu quand même, dont on parle tant, n'est-ce pas, du Japon, tient précisément aux 3, sinon 4, puisqu'ils prennent le latin aussi, aux 3 systèmes d'écriture. C'est parce qu'ils peinent à apprendre à lire, parce qu'ils ne savent pas parfaitement lire jusqu'à l'âge de 12 ans ou à peu près, mais qu'ils se sont mis, n'est-ce pas, dans ces systèmes, qu'ensuite, naturellement, et le goût de l'effort et l'alacrité spirituelle, n'est-ce pas, les a habités et leur donnent les moyens de réussir. Alors, nous avons insisté sur ces diversités politiques, économiques. Peut-on dire, n'est-ce pas, en quoi consiste pour eux cette idée de nation? En avons-nous des témoignages suffisants? Ça ne sera pas plus de 10 minutes, monsieur le lecteur. Eh bien, oui, en quoi cela consiste-t-il? Or, il y a un volet à présenter, les raisons d'une part et les témoignages, n'est-ce pas? Ont-ils conscience? C'est très difficile à définir, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui les pousse à avoir conscience? Bon, bien entendu, je pense qu'il y a là, et j'ai toujours été, nous tous le sommes maintenant, assez sceptiques à parler de déterminisme géographique, mais enfin, c'est quand même le pays où l'on parle volontiers d'outre-mont. Enfin, ça, c'est net, sans arrêt. Il y a une définition géographique que je ne crois pas que, je me tourne vers mes collègues, que des textes français parleraient d'outre-Rhin, par exemple, ou d'outre-Pyrénées, et vice-versa non plus. Tandis que là, en Italie, très souvent, n'est-ce pas ? Bon, je sais très bien que les Génois disent aussi Outremont pour parler de la Lombardie. Mais enfin, d'une façon générale, l'on a gardé, n'est-ce pas, la Cisalpine, etc., on a gardé toute cette terminologie, elle existe. Donc il y a cette conscience qui est très ancienne, ancrée, traditionnelle, d'une particularité, d'une protection presque de la nature qui compte. Peut-on, on doit aussi naturellement invoquer la langue, c'est quand même important. Dialectes, différences, qui ne sont pas tout à fait éteints, pas si vous voyez un film napolitain, enfin moi je parle d'il y a 20 ans, 30 ans, bien sûr en dialecte original, avec les actrices, c'est pas qui sont restées si célèbres, vous pouvez toujours essayer de comprendre, même quand vous avez vécu 2-3 ans en Italie, et le génois est quelque chose d'affreux. Mais enfin, ils savaient leur langue, ils pouvaient se comprendre sans mal. Et sur un assez vaste secteur géographique. Ils n'avaient pas dans leur entité, ils n'avaient pas de langue quand même foncièrement différente, comme le breton, basque, la région allemande, par exemple, de l'est de la France, ou le flamand. C'est absolument pas, ça compte. Ils avaient aussi, je crois qu'on peut le dire, et ils avaient aussi cette notion d'une supériorité technique. Ça, oui. Ils le disent partout, et c'est la raison pour laquelle ils sont si influents, ils sont si contents, n'est-ce pas, de réussir à l'étranger. Et puis alors, le problème chrétien. Bien sûr, ils sont pas les seuls, n'est-ce pas. Mais je crois que ce sentiment de la christianité est plus fort chez eux à cause de Rome. C'est quand même quelque chose de très important. Je ne pense pas, comme on l'a voulu le dire, que l'héritage romain antique, n'est-ce pas, païen, disons, si vous voulez, soit tellement important. À mon sens, une ville comme Florence ne sait même pas reconnaître ses monuments. Là, ils ont le reste d'un forum, bah, ils en ont fait un vieux marché. Non. Mais, d'un seul coup, l'héritage romain s'allie avec la prédominance culturelle, spirituelle et religieuse de Rome. Et Rome devient ville éternelle, n'est-ce pas, parce qu'elle abrite le pape, et c'est toute l'histoire que nous connaissons, n'est-ce pas, de cette sorte de xénophobie contre les papes d'Avignon, n'est-ce pas, qui a été considérable dans l'Italie, cette sorte d'hystérie, n'est-ce pas, de Cola di Rienzo et même de Catherine de Sienne, excusez-moi, n'est-ce pas, qui, contre cette captivité de Babylone, c'est quand même clair, là, voilà, un signe, n'est-ce pas, Babylone, c'est Avignon, bon. Alors, je crois que là, on peut donc nuancer ou enrichir la notion d'héritage romain en disant que se calque dessus, se superpose, n'est-ce pas, cette idée de la tête de l'Église, de l'héritage de Saint-Pierre, bien entendu. Et alors, les signes maintenant de ceci, les signes évidemment, comme toujours, et je crois que c'est une démarche d'enquête qui n'est pas du tout artificielle, sont évidemment plus faciles à détecter à l'étranger qu'en Italie même. Autrement dit, comment voyons-nous que l'Italien placé à l'étranger a toujours conscience, n'est-ce pas, d'appartenir à cette communauté ou à cette identité italienne. Et ici, cela nous amène, je crois, à montrer que oui, cette notion existe. Par l'expansion coloniale, bon, ça on peut l'étudier très vite, ils se sont établis en Orient. Or, bien sûr, ce qui est quand même très net, c'est qu'ils ont été les champions, on peut dire, d'une certaine façon. Nous voyons les croisades sont nôtres, c'est vrai, bien sûr, Godefroy de Bouillon, etc. Mais l'intérêt à Jérusalem est quand même très italien. Ce sont les Amalfitains qui ont créé le premier hospice de Saint-Jean, bien entendu, face au Saint-Sépulcre. Or, c'est eux qui ont, et alors là, à leur honneur ou pas, qui ont été, plus que les Francs, peut-être les Francs français, les champions de la lutte contre Byzance ou de l'antagonisme contre le monde orthodoxe oriental. 1204, les Vénitiens, c'est quand même quelque chose, et personne en Italie, beaucoup les ont enviés, mais personne ne les a condamnés, n'est-ce pas, sauf le pape, il le fallait, n'est-ce pas. Et ceci, donc, nous avons cela, et alors, il est quand même significatif, vous me direz, c'est très peu de choses, mais quand vous lisez les actes, les accords, ou surtout les récits de voyage, un Italien qui va en Orient va s'héberger dans le fondouk. Si les Génois, qui a un fondouk des Génois, il y va, mais sinon... Si les Génois, il ira chez les Florentins, mais pas chez les Catalans, ni chez les Provençaux. Voilà. Ceci est quand même très net, autant au Caire, Alexandrie, qu'à Saint-Jean d'Acre, par exemple, ou à Damas, n'est-ce pas ? Ils le disent très clairement. Donc on retrouve ces gens d'origine. Et puis alors pour l'Occident, et là je vous avais, monsieur le recteur, pour poser ce thème aussi, un thème très intéressant, il me semble, pour montrer comment, n'est-ce pas, a pu se diffuser cette idée de l'italianisme ou de l'Italie, c'est l'exil. La conséquence de ce que j'évoquais tout à l'heure, des luttes entre partis, c'est le bannissement, n'est-ce pas, et c'est l'exil. Donc ils ont essaimé un peu partout, et je pense que cela était à l'origine de deux grandes fortunes des Italiens, celle militaire, avec le condottiere, n'est-ce pas, le capitaine. Il fallait que ces gens-là, qui étaient chassés de chez eux, gagnent leur vie. Et ils l'ont fait quelquefois en étant capitaine d'armes, c'est un domaine. L'autre, c'est effectivement la banque, la finance, n'est-ce pas, les affaires. Et ils ont été plus ou moins contraints. J'imagine qu'en dehors des voyages habituels pour aller aux foires et ailleurs, ils seraient volontiers restés chez eux. Mais dès la prise de Milan par Frédéric Barberousse, oui, en 1165, n'est-ce pas, dès ce moment-là, n'est-ce pas, les Milanais, les Placentins sont devenus des Lombards, comme nous les appelons, c'est-à-dire des changeurs, n'est-ce pas, ils sont installés à Gênes et un peu plus loin. Donc nous avons ces gens-là, n'est-ce pas, nous les voyons très bien diffuser, s'installer, former des colonies, et des colonies extrêmement puissantes, extrêmement importantes, n'est-ce pas, et c'est la façon dont ils se reconnaissent entre eux qui nous amène à penser effectivement qu'il y a là la notion d'appartenance. Bien sûr, comme le disait tout à l'heure M. Guillotel, il aurait fallu que vous me laissiez 2-3 ans, M. le recteur, pour pouvoir connaître la chose. Il aurait fallu surtout que je ne prenne pas ma retraite à Paris 4 et continue à lire les chapitres d'une thèse d'un de mes étudiants en cours qui étudie les Toscans à Avignon au 14-15e siècle et qui dépouille toutes les lettres domestiques qui sont envoyées pour savoir comment ils se qualifient eux-mêmes quand ils écrivent à Florence, quand ils écrivent ailleurs. Est-ce qu'ils se disent Florentins? Est-ce qu'ils se disent Toscans? Est-ce qu'ils se disent Italiens? N'est-ce pas, c'est un dépouillement considérable. C'est une mise en œuvre difficile qu'il faut dominer, que ce jeune homme domine très bien et qu'il présente avec malheureusement un jargon linguistique que moi je ne domine pas du tout, si bien je ne peux guère vous faire état, n'est-ce pas, de ses conclusions. Alors je m'en tiendrai à des, si vous voulez, à des, comment dirais-je, des signes extérieurs qui me retiendront pas plus de 2 minutes maintenant, tout à fait, je ne dis pas formels, mais tout à fait concrets. D'abord, ils s'établissent à l'étranger, ils investissent, ils traitent, mais en aucun cas, là alors, n'est-ce pas, ils habitent volontiers, ils se marient, certains, oui, ça, bien sûr, mais dans les affaires, on ne forme pas de société durable non plus, surtout pas avec des Catalans, par exemple, et pas avec des Provençaux. Et enfin, le seul signe bien connu, parfois oublié, et qui a été très bien remis en valeur par un article de Robert-Henri Bautier, n'est-ce pas, et celui-ci, c'est l'organisation aux foires de Champagne de nations. De la même façon qu'il y avait des nations à l'université, l'on a ces foires de Champagne, dont vous connaissez l'importance, ont vu en somme se former 3 grandes sociétés. La Hanse des 17 villes, Flandre, nord de la France-Allemagne, les Provençaux et les Italiens. Et pour ce qui concerne les Italiens, n'est-ce pas, ils ont formé ce qu'on appelle une societas ou universitas, n'est-ce pas, que l'on dit d'Italie, ou que l'on dit quelquefois de Lombardie et de Toscane, n'est-ce pas? Il faut bien voir, donc ça ne prend pas Rome et Naples, bien sûr, mais enfin, ils sont là. Il y a une douzaine de cités qui se sont rassemblées. Ils élisent leur premier capitaine en 1278, et leur idée, leur puissance, leur pouvoir, pardon, est de pouvoir traiter avec le roi de France, au phare de Champagne, et peu à peu dans tout le royaume. C'est bien que nous avons là une sorte de consulat collectif, n'est-ce pas, qui n'est plus le consul des Vénitiens, des Génois ou des Florentins, là, mais qui traite de toutes les négociations avec le roi, pour le comte de Champagne d'abord, naturellement pour les foires, avec le roi pour le reste. Juridiction sur les Italiens aux foires, donc sorte d'autonomie, n'est-ce pas? Juridiction, extraterritorialité, juridiction sur les Italiens à Paris, à Nîmes, Aigues-Mortes et Montpellier. On voit les deux pôles, n'est-ce pas? Paris d'un côté à cause de la cour, etc. Et alors tout le Languedoc là, où en 1280, on est naturellement très puissant. Et ce capitanat des capitaines des Italiens s'est finalement scindé en deux. Il y en a eu deux, un pour les foires et un pour tout le reste du royaume. Donc l'on peut dire, je dirais enfin, et pas tout à fait en conclusion, en fin de discours sur le problème, que nous avons là, on a des actes, on pourrait creuser, voir, n'est-ce pas, quelles sont les délibérations, quels sont les officiers subalternes qui font marcher tout cela. Nous avons là l'exemple significatif, pas tout à fait exceptionnel, puisque les Provençaux font la même chose, mais je n'en parle pas, d'une nation qui se reconnaît. Qui se reconnaît même au moment où ce n'est pas si facile pour traiter les affaires et où la concurrence entre eux, n'est-ce pas, doit être également très vive, très considérable. Alors vous voyez que je ne me suis pas haussé à des hauteurs de vue bien, bien importantes. J'ai voulu, et je répète ce que je me suis permis de vous dire tout à l'heure, de montrer que cette inexistence de l'État est patente, elle est flagrante, elle est même beaucoup plus grave que l'on imagine, et qu'il y a quand même une notion d'appartenance qui se voit un peu dans certaines institutions, mais que si je devais, moi, la qualifier, reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, elle est du domaine spirituel, bien sûr, avec le christianisme, mais un spirituel qui engloberait davantage un type de civilisation, elle est du domaine de ce que l'on ressent, intellectuel, je dirais. Et que, au fond, nous en arrivons au moment où tant de questions ont été agitées ces derniers moments, à nous dire que fédérer ce n'est rien du tout, qu'il faut s'unir et s'uniformiser. Nous avons là, pour moi, vous m'excuserez d'exprimer ma pensée comme cela, et mes états d'âme, la leçon d'une diversité que j'appelle à maintenir personnellement de tous mes voeux, et j'ai là, vous avez, cher Abbé, évoqué du Bellay, j'évoquerai un personnage beaucoup plus récent qui est de nos jours et dont on a beaucoup parlé, j'évoquerai Jean Raspail dans son roman Septentrion, n'est-ce pas, qui est pour moi son chef-d'œuvre, et où l'on voit comment, perdant la diversité, l'homme perd son âme, en quelque sorte. Et pour conclure, d'une façon triviale, je dirais que je suis de ceux, mais là, ça peut étonner nos dirigeants qui aiment passer les frontières.
Monsieur le professeur, je vous sais infiniment de nous avoir présenté de façon aussi vivante cette nation sans État. Vous avez fait revivre devant nous ce charme que nous ne voyons pas venir avec l'Europe de Bruxelles et de Strasbourg. Oserais-je vous dire que vous avez su présenter ce charme avec la langue qui sied. Pour ce qui est de l'écu dont vous disiez que c'était une monnaie que l'on ne voyait pas, je voudrais vous inquiéter ou vous rassurer, cela dépend, en vous disant qu'on l'a vu cette semaine, mais dans un quotidien que vous ne lisez pas, et il vaut mieux, c'était dans Libération. On offrait aux lecteurs de Libération, cette revue qui n'a aucune valeur, comme vous le savez, une petite pièce pour essayer de donner un peu d'intérêt. Maintenant, les lecteurs de Libération sont payés pour lire ce journal.
En monnaie de singe.
En monnaie de singe, oui. Pas de but, bien sûr, pas autrement. Il y a certainement quelques questions. Oui, madame, je vous en prie. Si vous voulez bien appuyer sur le bouton.
Est-ce que ce n'est pas le début du principe de subsidiarité?
C'est-à-dire, c'est vrai, comme il y a eu tellement de définitions contraires de ce principe, j'aimerais que vous...
Je laisse aux petites unités, aux petites entités, la possibilité de faire ce qui est dans ces...
Non, je ne pense pas, parce que ce dont on nous a abreuvé, qui est sans doute un leurre, tel que vous l'exprimez là, ça serait la possibilité pour une petite entité de se dérober à une instruction supérieure, n'est-ce pas? C'est bien cela. Or là, il n'y a pas d'instruction supérieure, il n'y en a pas du tout, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, c'est l'indépendance complète. Et c'est pourquoi, en conclusion, j'ai essayé de dire que c'est du domaine de l'esprit, n'est-ce pas? Bien entendu.
Autre question, Monsieur Guillotel.
J'ai pensé immédiatement en vous écoutant, parce que à la réussite du monde grec,
oui,
d'une certaine façon, parce que c'était une réédition extraordinaire.
Oui, oui, bien sûr.
Mais également, parce que je dois avoir un peu, je ne dis pas l'esprit de contradiction, mais quand même, je me suis posé la question de savoir ce qu'il advenait à ceux qui essayaient d'échapper à ces règles qu'on est obligé normalement de respecter, c'est-à-dire de vivre dans cette famille clanique, de ne faire affaire qu'avec certains. Quel est le sort qui attend ceux qui voudraient agir autrement?
Alors là, évidemment, la réponse est claire et simple. Si vous voulez, j'ai privilégié l'existence de ces clans. J'avoue, et bon, c'est facile de le reconnaître, qu'il ne groupe qu'une partie de la population, c'est-à-dire la partie que l'on qualifie généralement de noble, le mot n'ayant pas du tout notre sens, n'est-ce pas, de l'époque moderne, bien sûr. Alors, quelle proportion? C'est très variable. Bien entendu, à l'intérieur du clan noble, il y a des gens de toutes conditions. Il y a de pauvres gens, mais qui sont les clients d'eux, et qui portent le nom d'eux. Mais tous les autres, n'est-ce pas, formant, il ne faut pas dire le peuple, peut-être la plèbe, c'est mal non plus, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas agrégés comme cela, sont en dehors. Il n'y a aucun doute, et ça doit représenter nettement plus, en chiffres, de la moitié de la population. Du point de vue topographique, il y a aussi une distorsion, mais ça ne représente pas la moitié du pouvoir, de très loin. Donc il y a des gens qui, ipso facto, d'origine, échappent à cela. Pour les autres, bon, un transfuge des Dorias qui s'en irait, ben, bon, ces clans-là, ça nous mènerait très loin, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas endogamiques, déjà. Donc vous voyez qu'il suffit de se marier avec les Spinola, on prend une fille, la fille prend tout de suite le nom, sauf en cas de veuvage, le frère peut la récupérer, parce qu'il y a une dot, mais quand elle a été versée, mais à ce moment-là, n'est-ce pas? Donc vous voyez que malgré tout, on échappe, mais on n'a pas intérêt.
Y a-t-il une autre question?
Eh bien, on va aller à table.
Eh bien, comme nous y invite M. le professeur Hers, nous allons à table.